Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 2, Daf Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Nous commençons l'étude de l'ordre de Kodashim, qui, comme son nom l'indique, traite des lois concernant l'offrande des sacrifices. Malheureusement, nous n'avons plus le Beit HaMikdash, le temple. Il nous est donc impossible d'offrir des sacrifices. Cependant, le Chafetz Chaim Zichrono Livracha encourageait beaucoup l'étude de ce sujet. Et cela pour deux raisons. Premièrement, pour se préparer à la venue prochaine du Messie, pour être préparé donc à offrir des sacrifices. Deuxièmement, parce que l'étude des lois concernant l'offrande des sacrifices est considérée comme l'offrande des sacrifices. C'est donc un très grand mérite. Avant d'aborder le premier traité de cet ordre, donc le traité de Zvachim, nous donnerons un petit aperçu des lois des sacrifices en guise d'introduction. Nous noterons que la majorité des sacrifices sont décrits dans Parashat Vaikra, Parashat Tzav et une partie de Parashat Shemini. Il existe trois types de sacrifices. Il y a des sacrifices d'animaux qui sont uniquement du gros ou du menu bétail. Il existe des sacrifices d'oiseaux, il s'agit uniquement de pigeonneaux ou de tourterelles. Il existe aussi des sacrifices à base de céréales, il s'agit en général soit d'une pâte de farine mélangée avec de l'huile, soit sous forme de pain cuit de plusieurs manières. Ces sacrifices sont décrits plus amplement dans Masechet Menachot, qui est le deuxième traité de cet ordre. Pour les sacrifices d'animaux, il existe une longue liste de types de sacrifices qui sont décrits notamment dans le 5e Pérec de ce traité. Nous nommerons ici les plus courants. Il s'agit du Korban Ola, l'Holocauste, qui ne peut être qu'un mâle, donc un bœuf ou un veau, un mouton, un agneau ou un bélier, un bouc ou un chevreau. Ce sacrifice a cela de particulier que toute la chair est brûlée sur l'autel. Les Kohanim ne bénéficient que de la peau de cet animal. Il y a le Korban Shlamim, qui lui peut être soit mâle, soit femelle. Ce sacrifice a cela de particulier qu'il est partagé en trois parties. Une partie, les graisses sont brûlées sur l'autel. La cuisse droite et la poitrine sont offertes au Kohen, tandis que le reste de la viande est mangé par le propriétaire. Et ce, dans un délai de 2 jours et 1 nuit, c'est-à-dire le jour de l'offrande du sacrifice, et la nuit qui suit, et le lendemain. Il n'y a pas de raison particulière pour offrir ces offrandes. Il s'agit donc de cadeaux, si l'on peut dire, en signe de joie ou de remerciement. Il y a le Korban Khatat, qui, lorsqu'il est offert par un particulier, ne peut être qu'une femelle, soit une brebis, soit une chèvre. Celui-ci est offert pour expier un péché commis par inadvertance, dans le cas où celui-ci est sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. La graisse de ce sacrifice est brûlée sur l'autel, tandis que la chair ou la viande de ce sacrifice est mangée uniquement par les Kohanim. Il y a le Korban Hasham, c'est un Korban particulier offert notamment par une personne qui est en doute s'il a fauté ou non, donc s'il a commis un péché pour lequel il aurait dû offrir un korban khatat, ou bien par une personne qui a renié une dette ou un dépôt en prêtant un faux serment, ou bien une personne qui a tiré profit d'un objet sacré qui appartient au Hekdesh. Dans ces cas, ce sacrifice est impérativement un bélier. Il existe encore 2 cas où ce sacrifice est un mouton. C'est le cas du lépreux après sa guérison et d'une personne qui a fait un vœu d'abstinence pendant une certaine période pendant laquelle il n'a pas le droit de se couper les cheveux, ni de consommer des produits de la vigne, ni de se rendre impur par le contact d'un mort. S'il s'est rendu impur, il devra, après sa purification, offrir un korban hasham. Pour ce sacrifice, la graisse est offerte sur l'autel pour être brûlée, et la viande est consommée par les Kohanim. Il existe le korban pessah, qui est offert la veille de pessah, et qui était consommé le soir même, uniquement grillé par le feu, et ce, selon certains avis, uniquement jusque minuit. La graisse de ce sacrifice était aussi brûlée sur le Mizbéach. Il existe encore d'autres sacrifices, comme nous l'avons mentionné précédemment, qui sont tous décrits dans le cinquième chapitre de ce traité. L'essentiel de l'offrande de n'importe quel sacrifice est l'offrande du sang ou son aspersion dans toutes ses formes. Cette offrande est définie par une série de quatre actes ou services qui forment la partie essentielle de l'offrande du sacrifice. Il s'agit en premier de l'abattage rituel, la shrita. En deuxième, le recueillement du sang dans un récipient. En troisième, le transport de ce sang du lieu où il a été recueilli à l'autel. Et en quatrième, l'aspersion elle-même. Si ces quatre services ont été effectués correctement, le sacrifice est valable, même si par la suite, la graisse n'a pas été brûlée sur l'autel, ou bien si la viande n'a pas été consommée par les Kohanim ou les propriétaires, selon le cas. La suite de l'offrande du sacrifice, qui est donc le fait d'emmener les graisses pour les brûler sur l'autel, et la consommation de la viande par les Kohanim et les propriétaires, bien qu'elle soit obligatoire, mais elle n'est pas impérative pour que le sacrifice soit valable. Un korban olah ou un korban shlamim doivent être accompagnés d'une offrande appelée libation. Cette offrande varie selon la taille de l'animal offert. S'il s'agit d'un bœuf ou d'un gros bétail, cette offrande sera composée de 3 dixièmes de hefa de farine, soit environ un volume de 7,5 kg de farine, mélangé avec 6 louks d'huile, soit environ 3,6 litres d'huile. Cette offrande était entièrement brûlée sur l'autel et elle était accompagnée de 6 louks de vin, soit environ 3,6 litres de vin, qui étaient versés séparément sur l'autel. S'il s'agit d'un bélier, cette offrande sera composée de 2 dixièmes de hefa, soit environ 5 kg de farine, mélangée avec 4 louks d'huile, soit environ 2,4 litres d'huile, et cette offrande était accompagnée d'une même quantité de vin, donc aussi 4 louks de vin, soit 2,4 litres de vin. Pour tout autre menu bétail, cette offrande est composée d'un dixième de hefa, soit environ 2,5 kg de farine, mélangée avec 3 louks d'huile, soit environ 1,8 litres d'huile, et cette offrande était accompagnée d'une même quantité de vin, soit 3 louks de vin, donc 1,8 litres de vin. Le deuxième type de sacrifice est le sacrifice d'oiseaux. Nous l'avons mentionné, il s'agit soit de pigeonneaux, soit de tourterelles. Il peut s'agir soit d'un korban olah qu'une personne offre, donc par générosité, soit d'un korban khatat, dans les cas explicitement prévus par la Torah. En général, ce korban khatat est prévu pour une personne qui n'a pas les moyens de se payer un animal pour l'offrir en tant que korban khatat, notamment dans le cas d'une personne qui a transgressé son serment de faire ou de ne pas faire telle action, ou bien d'une personne qui a pénétré dans le Beth Amikdash tout en étant impur, ou d'une personne qui a nié avoir connaissance d'un témoignage alors qu'il le connaissait. Pour ces sacrifices, ces oiseaux ne sont pas sacrifiés par abattage rituel par le moyen d'un couteau, action qui peut d'ailleurs se faire même par un profane, par exemple par le propriétaire, mais plutôt c'est le Kohen qui tuait cet oiseau en plantant l'ongle de son pouce dans la nuque jusqu'à sectionnement de la trachée artère et de l'œsophage s'il s'agit d'un korban olah, et un seul de ces deux organes s'il s'agit d'un korban khatat. Autre différence, s'il s'agit d'un korban olah, ce sacrifice était effectué sur le passage qui entourait l'autel à peu près à mi-hauteur, tandis que s'il s'agit d'un korban khatat, celui-ci était effectué en bas auprès de l'autel. Puis le Kohen faisait gicler le sang sur les parois de l'autel. Donc pour ce sacrifice, c'est uniquement une série de deux actes qui forment l'essentiel de son offrande. Il s'agit donc de l'abattage de cet oiseau et de l'aspersion du sang, comme nous l'avons décrit. S'il s'agissait d'un korban olah, celui-ci était brûlé sur l'autel, tandis que s'il s'agissait d'un korban khatat, la viande était consommée par les Kohanim. La troisième catégorie d'offrande est la mincha, c'est une offrande à base de farine. Il en existe plusieurs sortes, comme c'est décrit dans Masechet Menachot. En général, il s'agit d'une offrande donc à base de farine, d'une quantité d'un isaron, environ 2,5 kg de farine, qui est mélangée avec un loug d'huile, soit 0,6 litres environ, et on ajoutait à cette offrande de la levona, c'est une sorte d'encens. L'offrande de base était une simple pâte, il y en avait d'autres plus élaborées qui étaient cuites au four, sous forme de pain non fermenté, c'était donc de la matzah. S'il s'agissait d'une offrande qui était cuite au four, il fallait l'émietter, puis le Kohen approchait cette offrande du coin sud-ouest du Mizbeach, puis commençait la série de travaux qui constituait l'essentiel de l'offrande de la Mincha. En premier, il y avait la Kmitsa. Ce travail, qui était l'un des travaux les plus difficiles dans le Beit HaMikdash, se faisait comme suit. Le Kohen pliait les trois doigts sur la paume de sa main, l'index, le majeur et l'annulaire. La paume tournait vers le bas, il faisait rentrer donc sa main dans la farine, et en pressant vers le côté, il y a de la pâte ou des miettes selon le cas, qui rentrait dans l'espace qui se trouve entre ses doigts et la paume de sa main, et lorsque tout cet espace était rempli, le Kohen retirait sa main. Le deuxième travail, c'est le Kiddush Kli, c'est-à-dire sanctifier ce prélèvement dans un ustensile de service. Le Kohen mettait donc ce qu'il avait prélevé entre ses doigts, dans un ustensile de service, ce qui correspond au recueillement du sang dans un sacrifice. En troisième, il emmenait cet ustensile vers le Mizbéar. Puis en quatrième, il le mettait sur le feu, donc il mettait l'offrande sur le feu pour la brûler, ce qui correspond à l'aspersion du sang. Le reste de l'offrande était consommé par les Kohanim. Il existe aussi un autre type de mincha, c'est la mincha qui accompagne certains sacrifices. Il s'agit de pain qui accompagne par exemple les sacrifices de l'abstinent du nazir à la fin de cette période, ou bien les pains qui accompagnent le korban toda. C'est un sacrifice qu'une personne offre en signe de remerciement pour avoir échappé à un danger. Puisqu'il s'agit d'une offrande qui accompagne un autre sacrifice, aucune partie de cette mincha ne sera offerte sur le misbéar, mais plutôt l'aspersion du sang du sacrifice qu'ils accompagnent sera considérée comme l'essentiel de l'offrande de cette mincha. Il est enseigné à la fin du quatrième perek de Maseret Zvachim que lorsqu'un Kohen offre un sacrifice, il doit avoir l'intention, et ce, pendant la série de travaux qui constituent l'essentiel de l'offrande de ce sacrifice, premièrement, d'offrir le sacrifice en son nom, en tant que tel, c'est-à-dire s'il s'agit d'un korbanola, il doit avoir l'intention de l'offrir en tant que korbanola, etc. Deuxièmement, il doit avoir l'intention que celui-ci soit agréé pour son propriétaire. Troisièmement, que ce sacrifice soit offert à Hachem. Quatrièmement, que la partie qui est destinée à être brûlée sur le Mizbéach soit entièrement brûlée sur le Mizbéach, et non pas partiellement ou carbonisée. Cinquièmement, que les parties qui sont destinées à être brûlées sur le Mizbéach soient placées sur le Mizbéach cru, de manière à dégager une odeur, et non pas qu'elles soient cuites ou grillées auparavant. Sixièmement, que ce sacrifice fasse plaisir à Kadosh Baruch Hu par le fait que sa volonté a été accomplie. Septièmement, s'il s'agit d'un korban khatat ou d'un korban hacham, il doit avoir l'intention que ce sacrifice expie le péché en question. Dans le premier chapitre, il sera question d'une personne, donc d'un Kohen, qui offre un sacrifice au nom d'un autre sacrifice. C'est-à-dire, par exemple, s'il s'agissait d'un korban ola, et il l'a offert en tant que korban shlamim. Dans certains cas, le korban sera pasoul, ne sera pas valable. Dans d'autres cas, il sera valable. Mais puisqu'il n'a pas été offert correctement, nous considérons que le propriétaire qui l'a offert n'a pas rempli son engagement d'offrir un sacrifice. Il devra donc en offrir un autre pour accomplir son vœu. Nous verrons aussi le cas où le Kohen l'offre au nom d'un autre propriétaire, au nom d'une autre personne. Dans ce cas, le sacrifice sera valable, mais le propriétaire devra en offrir un autre pour la raison que nous avons dit précédemment. Il existe encore deux types de pensées qui rendent le korban pasoul lorsque le Kohen a eu ses pensées, lorsqu'il effectuait la série de travaux qui forment l'essentiel de l'offrande du sacrifice. Le premier cas, c'est Chutz Lizmano. C'est lorsque le Kohen a eu l'intention que ce sacrifice serait consommé ou offert sur l'autel, selon le cas, après les délais prévus par la Torah. Dans ce cas, ce korban est déclaré pigoul, qui veut dire repoussant. Donc le korban est non seulement pasoul, Mais en plus, celui qui en consomme, même dans les délais prévus par la Torah, sera sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Le deuxième cas, c'est Chutz Limkomo. C'est lorsque le Kohen a eu la pensée que ce sacrifice serait consommé ou offert en dehors de l'endroit prévu par la Torah. Ce korban est pasoul, cependant, la personne qui en mange ne sera pas sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Il existe aussi d'autres cas où le sacrifice sera pasoul, c'est lorsque celui qui a offert le sacrifice est inapte. Par exemple, si ce n'est pas un Kohen mais un Israël qui a offert ce sacrifice, ou bien même si c'est un Kohen, mais il ne portait pas les habits requis, ou bien il était infirme, ou s'il était ivre, ou en deuil, ou impur, ou même s'il était simplement assis, ou bien s'il y avait quelque chose qui faisait écran entre le Kohen et le sol du Beth Amikdash, par exemple s'il était debout sur un objet quelconque. Nous verrons plus de détails, notamment dans le second chapitre de cette Maseret. Lorsqu'une personne va offrir un sacrifice facultatif, comme un korban olah ou un korban shlamim, il a deux manières de le faire. Soit de désigner un animal comme korban, donc de dire que cet animal soit un korban olah, il aura l'obligation de l'emmener au Beth Amikdash pour l'offrir comme sacrifice. Cependant, si l'animal se perd ou meurt, ou même si le sacrifice devient pasoul pour une raison ou une autre, il n'aura pas d'engagement ni d'obligation de le remplacer. La seconde manière, c'est de prendre un engagement. Par exemple, dans le cas où il dirait « je prends sur moi l'obligation d'offrir un korban olah ou un korban shlamim », dans ce cas, même après avoir désigné l'animal, il ne s'est pas encore rendu quitte de son obligation. Donc si par exemple l'animal meurt ou se perd, ou bien si le sacrifice devient pasoul, il aura l'obligation de le remplacer, comme s'il s'agissait d'un korban obligatoire. Il est vrai que, comme nous l'avons dit au début de l'introduction, malheureusement aujourd'hui nous n'avons plus la possibilité d'offrir des sacrifices depuis que nous sommes en exil. Cependant, il y avait une période où il était possible d'offrir des sacrifices sur des autels privés. Il s'agissait uniquement de korbanot facultatifs comme un korban olah ou un korban shlamim. C'était avant la construction du Mishkan dans le désert. Puis, lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Eretz Israël, ils ont érigé le Mishkan à l'emplacement appelé Gilgal. Cependant, ils ont eu le droit d'offrir des sacrifices sur des autels privés. Et ce, jusqu'à ce qu'ils ont érigé le sanctuaire dans la ville de Shiloh. Après la destruction du sanctuaire de Shiloh, les autels privés ont de nouveau été permis jusqu'à la construction du Beth Amikdash dans la ville de Yerushalayim. Et puis après, les autels privés ont été interdits à jamais. Nous verrons les détails de ce dernier point dans le dernier chapitre de Maseret Zvachim. Après cette introduction que nous avons voulu générale, il reste encore beaucoup de détails à découvrir, que nous découvrirons ensemble, Imir Tse Hashem, notamment dans les deux premières Masertot du Seder Kodshim, donc Zvachim Nachot, où sont concentrées la majorité des lois concernant l'offrande des sacrifices. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Dav Bet. En la Mishnah dit, Kol ha-Zvachim shenisbechu shelo lishman, tous les sacrifices qui ont été sacrifiés, c'est-à-dire qui ont été égorgés au nom d'autres sacrifices, par exemple, un korban olah qui aurait été sacrifié au nom d'un korban shlamim, ksherim, ces sacrifices sont kachers. Et là, chez lo'alou le ba'alim leshem chova, cependant, ces sacrifices ne comptent pas pour l'obligation de propriétaire. Autrement dit, le propriétaire ne s'est pas rendu quitte de son obligation ou de son engagement d'offrir le korban en question. Il devra donc en offrir un autre pour le remplacer. Cependant, comme le précise le Shita Mekoubetset, s'il s'agit d'un sacrifice facultatif que le propriétaire n'avait pas d'engagement d'offrir, par exemple dans le cas où il a simplement désigné un animal comme sacrifice sans engagement, il n'aura pas d'obligation d'offrir un autre sacrifice pour le remplacer. Chutz min ha-Pesach ve'achatat. À part le cas où il s'agit d'un korban Pesach ou d'un korban Chatat qui est offert pour expier un péché. Dans ce cas, si ces sacrifices ont été offerts au nom d'autres sacrifices, ces sacrifices sont pasoul. Puisque c'est ainsi, ce sacrifice devra être détruit en le brûlant, tandis que s'il s'agit d'un autre sacrifice qui est donc kasher comme nous l'avons vu, l'offrande de ce sacrifice se poursuivra normalement et il sera consommé ou offert sur l'autel selon le cas. La Mishnah précise, HaPesach Bizmano, Lorsque nous disons que le Korban Pessah qui a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice est pasoul, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un Korban Pessah qui est offert à temps, c'est-à-dire la veille de Pessah après-midi, mais après ou avant, comme nous le verrons plus loin d'Av Zayin Amud Bet, le Korban Pessah est en fait un Korban Shlamim, et s'il est offert au nom d'un autre sacrifice, il sera kasher vor la Shitam Kubetzet, Be'achatat Be'kolzman, et lorsqu'il s'agit d'un Korban Chatat, à tout moment, s'il est offert au nom d'un autre sacrifice, il sera pasoul. Rabbi Eliezer Omer, Af Ha'asham, même le Korban Hasham est aussi pasoul s'il est offert ou sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Il précise donc, Ha'Pessah Bizmano, lorsqu'il s'agit d'un Korban Pessah, c'est uniquement s'il est sacrifié au moment prévu pour son offrande, donc la veille de Pessah à l'après-midi, Ve'achatat ve'acham becholzman, et s'il s'agit d'un korban chatat ou d'un korban acham, à tout moment, s'ils sont offerts au nom d'un autre sacrifice, ils seront pasoul. Amar Rabbi Eliezer, voilà pourquoi je dis que si le korban acham est offert au nom d'un autre sacrifice, il est pasoul au même titre que s'il s'agissait d'un korban chatat. Cela parce que hachatat ba'al chet, le korban chatat est offert pour expier un péché, ve'acham ba'al chet. Et le Korban Hasham est aussi offert pour expier un péché. Nous pourrons donc les comparer et nous dirons Ma Chatat Psula Shelolishma, de la même manière que le Korban Chatat est pasoul s'il est sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Af Ha'asham Pasoul Shelolishmo, ainsi aussi le Korban Hasham sera pasoul s'il est sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Yossi Ben Chouni Omer, Hanishchatim Leshem Pesach, tous les sacrifices qui ont été égorgés, donc sacrifiés, au nom d'un Korban Pessah, la veille de Pessah après-midi, qui est le moment prévu pour l'offrande du Korban Pessah, ou le Shem Chatat, ou bien n'importe quel sacrifice qui a été sacrifié au nom d'un Korban Chatat, psoulim, ces Korbanot seront pasoul. Shimon Achi Azaria Omer, Shimon le frère de Azaria, il a été nommé de la sorte parce que Shimon a pu s'adonner à l'étude de la Torah grâce au soutien financier de son frère Azaria. Son nom est donc resté pour la postérité. Il dit donc, Shartan Leshem Gavoa Mehen. Les sacrifices qui ont été sacrifiés au nom de sacrifices plus hauts que, c'est-à-dire d'une sainteté plus grande, Ksherin, seront kasher Leshem Namuch Mehen, mais s'ils ont été sacrifiés au nom d'un sacrifice plus bas, c'est-à-dire d'une sainteté moins grande, Psulim, ils seront pasoul. Ketsad, comment applique-t-on cette loi? Il répond, Kodche Kodashim Shechartam Leshem Kodche Kalim. Des sacrifices appelés Kodche Kodashim, Saint des Saints, comme le Korban Ola ou le Korban Chatat, qui ont été sacrifiés au nom de sacrifices d'une sainteté légère, comme le Korban Shlamim, Soulim, ils seront pas soul. Kodchim Kalim Shechartam Leshem Kodche Kodashim. Par contre, des sacrifices d'une sainteté légère, comme un Korban Shlamim, qui ont été sacrifiés au nom de sacrifices appelés Kodche Kodashim, Saint des Saints comme le Korban Ola et le Korban Chatat, Ksherim, ces sacrifices seront kasher. Autre exemple, Habechor Ve'amaaser, le premier-né animal, s'il s'agit d'un agneau, d'un chevreau ou d'un veau, qui doivent être sacrifiés au Bet Hamikdash et la viande est consommée par le Kohen, ou bien le Maaser, c'est la dîme prélevée sur les animaux chaque année, chez Shartan Leshem Shlamim, qui ont été sacrifiés au nom d'un Korban Shlamim. En fait, ces deux types de sacrifices sont considérés comme ayant une sainteté légère. Cependant, le Korban Shlamim est d'une plus grande sainteté, parce que premièrement, le sang du Korban Shlamim est aspergé sur les deux coins opposés du Mizbeach, de manière à ce que le sang atteint chaque fois simultanément les deux parois adjacentes du Mizbeach. Nous pouvons considérer qu'il y a eu quatre aspersions, et c'est ce genre d'aspersion qui est appelé communément deux qui font quatre. Tandis que le sang du premier-né animal ou de la dîme des animaux n'est aspergé qu'une seule fois. Autre différence, le Korban Shlamim est accompagné de libation, tandis que l'offrande du premier-né animal ou de la dîme des animaux n'est pas accompagnée de libation. Troisième différence, il faut prélever la cuisse droite et la poitrine du Korban Shlamim pour les balancer en même temps que les graisses qui doivent être offertes sur le Mizbeach, puis ces deux parts sont données au Kohen, tandis que ce prélèvement n'a pas lieu pour le premier-né animal ni pour la dîme des animaux. Donc, puisque la sainteté du Korban Shlamim est plus grande, la personne qui sacrifie le premier-né animal ou la dîme des animaux au nom d'un Korban Shlamim, Kshérim, ses sacrifices seront kachers. Tandis que Shlamim Sheshartam, le Shem Bechor ou le Shem Maaser, celui qui sacrifie un Korban Shlamim au nom d'un premier-né animal ou de la dîme des animaux, Psoulim, ce sacrifice seront pasoul. Et cela parce que, comme nous l'avons expliqué, la sainteté du premier-né animal ou de la dîme des animaux est plus légère que celle du Korban Shlamim. Nous avons vu dans la Mishnah, tous les sacrifices qui ont été sacrifiés au nom d'un autre sacrifice seront cachers. Cependant, ils ne comptent pas pour l'obligation du propriétaire. Autrement dit, il n'a pas rempli son obligation ou son engagement d'offrir un sacrifice. Il devra en offrir un autre pour le remplacer. Alors la Gemara demande, « Lamali le mitna ?» Pourquoi est-ce que la Mishnah s'exprime de cette manière en disant « Ela shelo alu » Cependant, ces sacrifices ne comptent pas pour le propriétaire. « Litne velo alu le ba'alim le shem chova » La Mishnah aurait pu simplement dire « Et ces sacrifices ne comptent pas pour l'obligation du propriétaire. » Pourquoi cette expression cependant? La Gemara répond « Hakamash malan » C'est cela que la Mishnah voulait nous enseigner. « La ba'alim hu de lo alu le shem chova » Il est vrai que ces sacrifices ne comptent pas pour l'obligation du propriétaire. « Aval bigdushatayu ou kaime » Cependant, ces sacrifices gardent leur sainteté d'origine. « Ve'asur le shinu yebehu » Il est interdit d'opérer d'autres changements. C'est-à-dire, une personne qui sacrifie un korban ola au nom d'un korban shlamim, en fait, ce sacrifice reste un korban ola. Il est interdit de continuer à effectuer les services de l'offrande de ce sacrifice au nom du korban shlamim, mais il faudra continuer à l'offrir en tant qu'un korban ola ou que des rava, comme Rava l'a enseigné. D'amar Rava, ola shesharta shelo lishma, un korban ola qu'une personne a égorgé, donc sacrifié, au nom d'un autre sacrifice, assur les ogs d'amar shelo lishma, il est interdit d'asperger son sang au nom d'un autre sacrifice, mais il faudra en effet l'asperger au nom du korban ola. Et cela, ibaitema svara, si tu veux, je te dirai qu'il est logique que c'est ainsi, ibaitema kra, si tu veux, je te dirai même que nous l'apprenons d'un pasouk. La Gemara précise, Ibaitema Asvara, si tu veux, je te dirai que c'est simplement logique que c'est ainsi. En effet, le raisonnement est le suivant. Mishum de Shaneba, est-ce que parce qu'il a fait un changement dans ce sacrifice, en agissant d'une manière incorrecte, parce qu'il l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, Kolhane Lishneba Velizil, est-ce que cela lui donne le droit d'opérer d'autres changements dans ce sacrifice, en continuant d'agir d'une manière incorrecte, et en continuant à le sacrifier au nom d'un autre sacrifice? Puisque ce sacrifice reste un korban ola, il faudra donc toujours l'offrir en tant que korban ola. Ibaïdema, si tu veux, je te dirai, kra, nous l'apprenons d'un pasouk. Il s'agit d'un pasouk dans Dvarim Kav Gimel concernant l'offrande des sacrifices. Le pasouk dit, Motzas fatecha tishmor ve'asita, ce qui sort de tes lèvres, tu observeras et tu feras, kasher nadarta lashem elokecha nedava, comme ce que tu as fait le vœu pour Hachem, ton Dieu, d'offrir un cadeau. Alors la question se pose, Hay Nedava, lorsque le pasouk emploie le terme de Nedava, qui est un cadeau qui se fait lorsqu'une personne désigne un animal pour l'offrir comme sacrifice.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Bet Amud Bet. Nederhu, en fait, il s'agit d'un vœu. C'est-à-dire, la question se pose que les deux expressions du pasouk se contredisent. Au début, le pasouk parle de Neder qui est un vœu avec engagement, tandis que la seconde partie du pasouk parle de Nedava qui est un sacrifice sans engagement. Et là, plutôt, c'est cela que le pasouk veut dire. Im kema shenadarta asita, si tu as fait comme ce que tu as fait le vœu, c'est-à-dire si tu as offert le sacrifice comme tu t'es engagé à le faire, donc au nom du sacrifice que tu t'es engagé à offrir, Yeheneder, ce sacrifice sera considéré comme un vœu, c'est-à-dire tu auras rempli ton engagement, Veimlo, et sinon, c'est-à-dire si tu n'as pas agi et tu n'as pas offert ce sacrifice au nom du sacrifice que tu t'étais engagé à offrir, Nedaba Yehe, ce sacrifice sera considéré comme un simple cadeau, donc d'un sacrifice qu'une personne a simplement désigné sans engagement. Ou Nedava Mishare Lishinuyeba, est-ce qu'il est permis de faire des transformations dans un animal qui a été offert comme sacrifice sans engagement. Autrement dit, dans le cas où une personne désigne un animal pour être offert comme sacrifice, il s'agit donc du nedava, il doit être offert en tant que tel, il est interdit de le sacrifier au nom d'un autre sacrifice. Donc même si ce sacrifice qui au départ était un korban ola pour remplir l'engagement de cette personne, puis lorsqu'il a été égorgé au nom d'un autre sacrifice, celui-ci a perdu son caractère de vœu, il ne peut plus remplir l'engagement du propriétaire, cependant il reste une nedava qu'il est interdit de transformer. Finalement, il faudra donc continuer à l'offrir en tant que korban ola. Amar le Ravina le Rav Papa, Ravina dit la chose suivante à Rav Papa. Lo havid gaban beurta, tu n'étais pas avec nous hier soir, betruma becharmach, dans l'enceinte de becharmach. De Rami Rava mile ma'alieta adade, où Rava a posé de bonnes contradictions, vechane lehu, et il les a répondu. La Gemara demande, ma'i mile ma'alieta, quelles sont les bonnes contradictions qu'a posé Rava? La Gemara répond, voici la première. Nan, il est enseigné dans notre Mishnah. Kol azvachim shenizbechu shelo lishman, etc. Tous les sacrifices qui ont été sacrifiés au nom d'autres sacrifices, ils seront cachers, mais ils ne comptent pas pour le propriétaire, il devra donc en offrir un autre pour le remplacer. Rava comprend, nous verrons par la suite d'où il le sait, Tama de Shelolishman, c'est uniquement s'il a offert les sacrifices au nom d'autres sacrifices qu'il ne compte pas pour le propriétaire, il devra donc les remplacer, Hastama, mais si le Kohen a sacrifié le sacrifice sans pensée particulière, donc sans préciser qu'il s'agissait du korban en question, mais sans penser qu'il s'agissait d'un autre korban, alou nami le ba'alim le shem chova, ce sacrifice comptera même pour le propriétaire, il s'est rendu quitte de son obligation. En tout cas, nous voyons que même s'il faut offrir le sacrifice au nom du sacrifice en question, cependant, il n'y aura de problème que lorsque le Kohen l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, et non pas s'il n'a pas eu de pensée particulière. Veraminhi, on a opposé à cela une Mishnah dans Maseret Gittin, Dav Kav Dalet, Kol Aget Shenichtav Shelo Leshem Isha Pasoul. Tout acte de divorce qui n'a pas été écrit au nom de la femme qu'on veut divorcer est Pasoul, ou Stama Nami Pasoul, et même si le scribe a écrit cet acte de divorce sans intention particulière, donc sans penser particulièrement à cette femme en question, aussi le get, l'acte de divorce, sera Pasoul. Nous voyons donc que là où il faut avoir une intention particulière pour faire une action, celle-ci ne sera pas valable, non seulement s'il a eu une intention contraire, ou par exemple dans ce cas où il a pensé à une autre femme, mais même dans le cas où il n'a pas eu de pensée particulière. Donc, ces deux lois se contredisent. Veshane et Rava a répondu de la manière suivante. Zvachim, lorsqu'il s'agit de sacrifices bistam lishman umdim, en principe, ils sont destinés à être offerts en tant que tels. Par conséquent, même sans intention particulière, ce sacrifice sera kasher. Tandis que Isha... cette femme en particulier est pas soul. Finalement, d'où Rava a su faire la différence entre les sacrifices et les actes de divorce? Ragma répond, et la meha plutôt, c'est de la Mishnah qui est enseignée plus loin, Daf Yud Gimel, d'Etnan, car elle était enseignée dans la Mishnah. La Mishnah parle d'un cas où le Kohen a effectué une partie des travaux qui constitue l'essentiel de l'offrande du sacrifice au nom de ce sacrifice et une autre partie de ses travaux au nom d'un autre sacrifice. Quand même, lorsqu'il s'agit d'un korban pessar, par exemple, celui-ci sera pas soul. Or la Mishnah dit, Ketsad lishman veshelo lishman. Comment se présente le cas où une partie des travaux a été effectuée au nom de ce sacrifice et une autre partie a été effectuée au nom d'un autre sacrifice? La Mishnah répond, Leshem pessar ou Leshem shlamim. Lorsqu'il s'agit d'un korban pessar, et une partie des travaux, il les a effectués au nom d'un korban pessar, et une autre partie des travaux, il les a effectués au nom d'un... Shlamim. La raison pour laquelle il est pasoul, c'est uniquement lorsqu'il a effectué le service en premier au nom du korban pessar, et en second lieu au nom du korban shlamim. Ah, le shem pessar ou stama. Tandis que s'il a effectué une partie des travaux au nom du korban pessar, et une autre partie des travaux, il les a effectués sans intention particulière, kacher, ce korban sera kacher. Alma, nous pouvons donc déduire de là, stama kelishman dami, que lorsqu'il a offert un sacrifice sans intention particulière, c'est comme s'il l'avait offert au nom de ce sacrifice. puisque la Mishnah précise que ce korban serait pasoul uniquement s'il a une intention que celui-ci serait un korban shlamim. L'agma répond, Dilma, Shani Atam, peut-être que là-bas c'est différent, de Amar, parce que nous pouvons dire, Kol ha-ose, al-dad rishona u-ose, tout celui qui fait une action, il l'a fait selon ses premières intentions. C'est-à-dire, puisqu'il a commencé à effectuer des travaux de l'offrande de ce korban Pessah au nom d'un korban Pessah, nous pouvons estimer que la suite des travaux sont aussi considérés comme étant au nom du korban Pessah, même s'il n'a pas eu d'intention particulière, parce que la première intention se rapporte à toute la série de travaux qui forment l'essentiel de l'offrande de ce korban. Mais s'il n'avait pas eu au départ une intention que celui-ci serait un korban Pessah, peut-être qu'effectivement celui-ci sera pas soul. L'agma répond, et là, misefa, plutôt c'est de la fin de la Mishnah que nous l'apprenons. En effet, la Mishnah dit, shelo lishman velishman, comment se présente le cas où il a effectué une partie des travaux de l'offrande de ce korban Pessah au nom d'un autre sacrifice et une partie des travaux au nom de ce sacrifice, c'est par exemple le Shem Shlamim ou le Shem Pessah. C'est lorsqu'il a débuté les travaux au nom d'un korban Shlamim, puis il a poursuivi l'offrande de ce sacrifice au nom d'un korban Pessah. Nous pouvons déduire, Tama d'Amar le Shem Shlamim ou le Shem Pessah. La raison pour laquelle nous disons que ce korban n'est pas soul, c'est uniquement s'il a eu au départ l'intention que celui-ci serait un korban Shlamim, puis après il a eu l'intention que celui-ci serait un korban Pessah, Has Tama ou le Shem Pessah. Mais si au départ il n'a pas eu d'intention particulière, puis après il a poursuivi les travaux au nom du korban Pessah, Kacher, ce korban sera Kacher. Nous pouvons donc déduire de là que même lorsqu'un sacrifice est offert sans intention particulière, celui-ci est quand même kasher. L'agma réfute, Dilma Shani Atam, peut-être que là-bas c'est différent. De Amar, parce que nous pouvons dire, Yochiar Sofo Al Trilato, que même si au départ il n'a pas eu d'intention particulière, l'intention qu'il a eue à la fin prouve qu'en fait, dès le départ, c'était cela son intention. C'est-à-dire, puisqu'à la fin il a dit que ce korban serait un korban Pessah, donc il offre ce sacrifice au nom de la korban Pessah, cette intention fixera aussi ses intentions du début, et c'est pour cela que le korban sera kasher. Mais si le sacrifice a été offert entièrement sans intention, peut-être que celui-ci serait pas soul. Inami, ou bien nous pouvons réfuter cette preuve d'une autre manière. Aide de Tana Lishman Veshelo Lishman, puisqu'au départ, la Mishnah a dû parler d'un cas où il a effectué une partie des travaux au nom de ce sacrifice et une partie des travaux au nom d'un autre sacrifice, et c'est pour cela donc que la Mishnah a choisi cet exemple. Tananami shelo lishman velishman. La Mishnah a poursuivi en choisissant de dire le cas contraire, en disant donc qu'une partie du sacrifice a été offerte au nom d'un autre sacrifice et une partie au nom de ce sacrifice. Suffisant pour que le sacrifice soit pasoul s'il s'agit d'un korban Pessah. Alagmara poursuit, et là, plutôt meha. Nous l'apprenons de cette Mishnah qui est enseignée plus loin, Daf Memvav Amud Bet. La Mishnah dit, Leshem Shishad Varim Hazebach Nizbach. Le sacrifice doit être sacrifié au nom de six choses. Autrement dit, le Kohen doit avoir six intentions lorsqu'il offre un sacrifice. Premièrement, Leshem Zebach, que celui-ci soit offert en tant que tel, donc au nom du sacrifice auquel il est destiné. Leshem Zoveach, au nom de son propriétaire qu'il offre. Nous lisons selon le Bach, Leshem Hashem, que ce sacrifice soit offert pour Hachem, l'Hachem Ishim, que celui-ci soit entièrement brûlé par le feu et non pas simplement carbonisé sur l'autel, l'Hachem Réar, aussi le Kohen devra penser que celui-ci soit offert de manière à ce qu'il dégage une odeur, donc qu'il ne soit pas cuit avant d'être monté sur l'autel, l'Hachem Nichoar, aussi le Kohen devra avoir l'intention que ce korban fasse pour ainsi dire plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que sa volonté a été accomplie. Ve'achatat ve'acham l'eshem chet. Et s'il s'agit d'un korban chatat ou d'un korban acham, le Kohen devra aussi avoir l'intention que ce sacrifice expie le péché en question. Amar Rabbi aussi, af mi shelo haya belibo l'eshem achat mikol elu kasher. Même si le Kohen n'a eu aucune de ses intentions que nous avons dit plus haut, quand même le sacrifice sera kasher, shetnai beddin hu, parce que c'est une condition posée par le tribunal. Autrement dit, Atnu Beddin de l'Olema Lishmo, le tribunal suprême a institué que lorsque le Kohen offre un sacrifice, qu'il ne dise pas qu'il l'offre au nom de ce sacrifice, qu'il n'a aucune intention particulière, Dilma Ase le Memar Shelo Lishmo, de peur qu'il se trompe et qu'il l'offre au nom d'un autre sacrifice. Alors la question se pose, s'il te venait à l'idée que lorsqu'un sacrifice est offert sans attention particulière, celui-ci est pasoul, kaime bedin ou matne milta demipsilbe, est-ce que le tribunal suprême a le droit d'instituer quelque chose qui rende en fait le korban pasoul, puisque finalement, lorsqu'il a institué que le Kohen n'ait aucune intention particulière, finalement, le korban serait pasoul. Forcément donc, nous pouvons prouver de là que même si le sacrifice est offert sans intention particulière, celui-ci est kasher. Alors la Gemara demande, Vega beget destama pasoul menalan, d'où sait-on que l'acte de divorce qui est écrit sans intention particulière est pasoul? Il est ma mehadetnan, si tu veux me dire que c'est de cette Mishnah qui est enseignée dans Gittin Dav Kav Dalet. La Mishnah dit, Haya over bashuk, si une personne passait dans le marché, Veshama sofrim makrim, il a entendu des scribes dicter à d'autres scribes, Ish ploni giresh plonit memakom ploni, un tel a divorcé sa femme de tel endroit, Veamar, et il est rentré dans le tribunal, et il leur dit, Zeshmi vezeshemishti, c'est mon nom et le nom de ma femme, je voudrais donc utiliser cet acte de divorce. Pasoul legareshbo, cet acte de divorce n'est pas valable pour divorcer cette femme. Nous voyons donc que puisqu'il n'a pas été écrit avec l'intention de divorcer cette femme, cet acte de divorce est pasoul. Alors la Gemara réfute, Dilma kederafapa. Peut-être que la raison pour laquelle cet acte de divorce est pasoul, c'est à cause de l'enseignement de Rafapa. Dehama Rafapa, hacha besofrim asuim litlamed askinam. Ici, il s'agit de scribes qui apprenaient à écrire. Et cet acte de divorce n'a pas du tout été écrit en vue d'un divorce. C'est pour cela que celui-ci sera pasoul. Mais l'acte de divorce qui est écrit en vue d'un divorce, même si le scribe n'a pas eu d'intention particulière ou il n'a pas pensé à une femme particulière, l'acte de divorce devrait être kasher. L'agma reprend. Et la meha, plutôt nous disons que c'est de cette Mishnah qui est enseignée aussi dans Maseret Gittin Daf Kav Dalet. Nous passons à Daf Gimel Amud Alef. Yeter Alken, plus que cela, donc plus que nous avons dit précédemment, Katav le Garesh et Ishto, si une personne a écrit un acte de divorce pour divorcer sa femme, Venimlach, et il a changé d'avis, Metsao Beniro Veamarlo, puis un habitant de sa ville l'a rencontré et il lui a dit, Shmi Keshimcha Veshemishti Keshemishtecha, voici mon nom est comme le tien, et celui de ma femme est comme celui de la tienne, donc donne-moi cet acte de divorce, je veux divorcer ma femme, Pasoul le Gareshbo, cet acte de divorce n'est pas valable pour divorcer sa femme. Et cela, comme le précise le Tosfot, même si le scribe a eu l'intention que si cette personne ne se servirait pas de cet acte de divorce, il s'en servirait pour une autre personne. Nous voyons donc que si le scribe n'a pas une intention particulière de divorcer donc cette femme en écrivant l'acte de divorce, celui-ci n'est pas valable. La Gemara réfute en disant, Dilma, peut-être, Shani Atam, là-bas c'est différent, Dintikle, Leshem Girushim, Deahu. Parce que cet acte de divorce a quitté l'anonymat lorsque le scribe a une intention qu'en premier lieu, cet acte de divorce servirait à cette personne. Une fois qu'il a eu cette intention, cet acte de divorce ne peut plus servir à quelqu'un d'autre. Mais il est possible que dans le cas où le scribe n'a pas eu d'intention que cet acte de divorce serve à une personne particulière, le premier venu peut s'en servir. Finalement, de cette partie de la Mishnah, nous n'avons aucune preuve. La Gemara continue, et la Meha, plutôt, c'est de cette partie de la même Mishnah, toujours, que nous l'apprenons.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.